Radio du Châtelard.
Bonjour tout le monde, nous sommes Stéphanie, Cynthia et Aïcha de la classe des 7-8 âges du Châtelard. Aujourd'hui, nous allons interviewer Joe Métro, un chanteur, Sébastien Le Sieur, un sportif, André Progin, le chef de la police fribourgeoise, Heidi Rock, une célèbre styliste angulaire, et Mélissa Jacquier, une femme qui a nagé avec des requins.
Nous allons également avoir un sketch plein de bonne humeur, une chronique, le journal du sport, un bulletin d'information réchauffement climatique, mais surtout des chansons du dernier album de notre cher ami Joe Métro.
Et maintenant, nous allons laisser place à Alice et Lewan qui vont faire un sketch sur Joe Métro, apprendre au deuxième degré.
Pas à pas, encore s'éloigner de moi. Elle m'échappe déjà. Amoureux d'un courant d'air, ne plus savoir quoi faire pour essayer de lui plaire. Amoureux d'un courant d'air, me taire et me taire.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Joe Métro. Bonjour Joe.
Bonjour Charlie.
Alors Joe, vous pensez toujours à moi quand vous composez vos chansons ?
Pardon, je vous connais même pas.
Ah ben, moi j'ai cru que c'était pour moi la chanson Où est Charlie ?
Non, pas du tout.
Bon, et donc Joe Métro, c'est parce que vous voyagez en métro ?
Ben non, je vois pas, je voyage plutôt en taxi.
Ah, donc c'est vous Joe le taxi ?
Hein ? Joe le taxi, c'est pour Vanessa Paradis, rien à voir avec moi.
Mais c'est pas vous qui allez au paradis avec un taxi ?
Mais cette animatrice est folle !
Hé hey Joe, monsieur et madame Pa ont un fils, vous savez comment il s'appelle ?
Non, je vois pas.
Bah, José, parce que José Pa...
cette fois, je m'en vais.
Ouf, il est parti, c'était pas le bon. Le vrai Joe Métro, il arrive tout de suite. Merci de l'accueillir sur Radio Châtelard.
Interview pour les stars.
Bonjour, nous sommes sur Radio Châtelard, la radio des stars, accompagnée de Elvira. Bonjour Elvira.
Bonjour.
Bonjour Joe Métro.
Allô.
On avait envie de vous poser des questions sur Radio Châtelard, car vous êtes passé dans notre classe en 3-4H, il y a déjà 4 ans.
Je m'en souviens, en tout cas, oui.
Bon, vous êtes prêt, Joe ?
Mais oui, je suis prêt.
Pour commencer, comment vous êtes tombé dans la marmite de la musique ?
Aïe, presque, on va dire, par accident, parce que j'ai toujours beaucoup aimé la chanson française. J'ai été bercé par des chanteurs merveilleux comme Brel, Brassens, tout ça, dans ma tendre enfance. Mais moi, j'étais plutôt branché sur le hockey sur glace, c'est ce qui occupait la totalité de mes temps libres. Mais à un moment donné, j'ai dû arrêter sur une relativement longue durée de faire du sport. J'ai eu une blessure assez embêtante au genou. Et puis, ben, ça a été l'occasion pour moi de me dire, ben voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de chanter, de jouer un peu de guitare. Alors, je me suis acheté une guitare et puis je ne l'ai plus quittée. Voilà.
Et qu'est-ce qui compte dans votre vie à part la musique ?
J'ai pas compris la question, excuse-moi.
Qu'est-ce qui compte dans votre vie ?
Alors, beaucoup de choses. J'ai bien sûr une famille qui vient en priorité une dans ma vie, évidemment. Mais après, j'ai aussi le hockey sur glace qui est toujours ma passion, ma grande passion. Et puis, bien sûr, ce que j'aime bien, c'est faire la fête avec mes amis.
Est-ce que vous faites autre chose que la musique ?
Alors, je fais de manière générale, je fais pas mal de sport. J'aime beaucoup faire du hockey, je l'ai déjà dit, du ski. J'aime bien aussi les promenades dans la nature, surtout l'été. J'aime beaucoup me balader, tout ça. C'est des moments merveilleux que la vie nous offre.
Et du coup, c'est arrivé comment votre premier album ? Vous nous racontez ?
Oui, alors volontiers, c'était pour un anniversaire, parce qu'en fait, moi, ça fait longtemps que je joue et je chante des chansons dans les bars comme ça, mais je faisais essentiellement que des reprises, en fait. J'avais déjà composé des chansons pour moi, mais j'osais jamais les chanter en public, et puis... tout un tas d'amis se sont mis ensemble et ils m'ont offert comme cadeau d'anniversaire, il y a déjà plus de 10 ans maintenant, ils m'avaient offert une séance en studio pour enregistrer mes chansons, en m'obligeant, entre guillemets, à les dévoiler au public, puisque c'est quelque chose que j'osais pas faire. Et puis, une fois que j'ai reçu ce cadeau, j'étais, entre guillemets, j'avais la sympathique obligation, bien sûr, de chanter mes chansons en public et tout ça. Donc, en fait, c'est grâce à mes amis que j'ai pu enfin dévoiler ces chansons, je dirais, en toute sérénité, parce qu'avant, j'avais la trouille, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer la musique ?
Ben c'est, c'est essentiellement ce qui se passe lors des concerts, parce que moi je suis quelqu'un qui adore partager vraiment la musique. Bien sûr que j'aime bien faire des albums et tout ça, c'est bien sûr très plaisant, mais ce qui est le plus gratifiant, ce qui est le plus pimenté dans la vie d'un musicien, je pense que c'est ce qui se passe sur scène quand on a un échange avec le public. Ça, c'est vraiment un truc magique, quoi.
Et parlez-nous de votre premier concert. C'était où et comment ça s'est passé?
Alors, c'était une vraie catastrophe, bien sûr. C'était dans un bar qui n'existe plus à Fribourg, qui s'appelait le 52. C'était à la Grand Rue 52. Et en fait, à la base, je voulais pas faire ce concert, moi, parce que je jouais de la guitare, je chantais, ça m'allait bien. Mais encore une fois, mes amis m'avaient un peu provoqué, m'avaient chambré pendant des mois. Ils m'avaient dit, tu peux pas jouer seulement dans ton salon. Nous, on veut te voir sur scène. Une fois, on veut voir ce que ça vaut et tout ça. Et puis, c'était sous la forme d'un pari. À un moment donné, j'ai été, entre guillemets, mis devant le fait accompli. Je devais prendre ma guitare et chanter devant le public. Et puis, c'était à la fois magnifique pour moi et catastrophique parce que j'étais tétanisé sur scène. Enfin bref, voilà. Mais depuis, ça a heureusement un petit peu changé quand même.
Ah oui, et du coup, bah, c'est pas pareil.
Ben non, c'est pas pareil, ouais, effectivement.
C'est quoi votre style de musique? C'est toujours le même qu'au début?
Oui, alors je suis assez resté, figé là-dessus. C'est peut-être un manque d'ouverture d'esprit ou simplement parce que j'aime tellement ça que j'ai jamais eu envie de chercher ailleurs. J'adore des chanteurs comme Alain Souchon, comme Renaud, comme des gens qui vont chercher dans les textes, dans les formulations, à faire passer un joli message en musique. Puis disons, pour moi, globalement, la musique, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est ce style-là.
Et votre source d'inspiration, ça dépend des jours ou des moments?
Alors oui, évidemment, ça dépend beaucoup de ça. Hein. C'est, si on est triste, si on est gai, si on est fatigué, si on a plein d'énergie, ça va bien sûr... Toutes ces situations-là vont favoriser l'inspiration pour écrire des chansons, mais vont aussi orienter au final le thème ou l'atmosphère que va prendre la chanson. C'est clair.
Et votre dernier album, Des rêves par palette, pourquoi se forme-t-il numérique ?
Alors c'était un choix. Maintenant c'est assez délicat pour les chanteurs, enfin pour les musiciens actuellement de choisir le bon support physique parce que globalement les gens n'achètent plus trop hein, des CD ou comme ça. Et puis c'est quand même dommage. Moi j'avais quand même à cœur de pouvoir proposer un objet, entre guillemets, surtout à la fin de mes concerts, quand quelqu'un vient à un concert, qui découvre ma musique sur scène, et puis qui, s'il apprécie bien, il vient me voir à la fin, et puis si j'ai rien à lui proposer, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça, c'est comme s'il y avait un petit lien qui se crée, puis qui se casse aussitôt après, alors que si la personne en question repart avec un objet, et contenant de la musique, eh bien, ce lien est maintenu. Et puis c'est vrai que j'avais plus envie de faire un CD parce que j'en avais fait déjà trois. Et puis voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et puis j'étais tombé sur cette idée de faire une clé USB. Et puis voilà, ça m'avait séduit et je suis parti avec ça.
Et cet album, Des rêves par palette, il part de quoi ?
Alors, il parle de rêves par palette. Ouais, c'est alors j'ai essentiellement une chanson qui parle de rêve et puis c'était un petit peu la chanson centrale parce que je crois que je suis resté un grand rêveur et puis j'espère que vous resterez aussi des grandes rêveuses parce que c'est important dans la vie je pense. Et puis ben il parle de l'album en général parle beaucoup de femmes bien sûr parce que les femmes nous font rêver nous les hommes souvent. Même si c'est des créatures un peu mystérieuses, bien sûr. Mais elles nous font rêver. Et puis, elles parlent aussi d'amitié, de nostalgie, un petit peu, quelques chansons un petit peu de tristesse, un petit peu. Ben justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'inspiration vient un petit peu de l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on écrit. Mais je dirais que globalement, ça se veut plutôt sur le thème de la fête, des rêves, des choses assez joyeuses. Et puis, c'est ce que j'aime le plus de faire et c'est ce qui est le plus présent dans cet album, je pense.
Vous avez écrit toutes ces chansons vous-même ?
Oui. Alors, je tiens vraiment à écrire moi-même. Je pense que c'est quelque chose de primordial pour moi d'avoir cette phase de création avant de passer au studio d'enregistrement.
Et aussi pour la musique ?
Aussi pour la musique, oui. Mais alors, par contre, pour la musique, j'exagère un petit peu parce qu'en fait, ce que je crée, moi, c'est le texte de la chanson, la mélodie de la chanson et l'accompagnement de la guitare. Et après, il y a plein de gens qui interviennent. Il y a mes musiciens, le batteur qui vient, qui fait sa ligne de batterie, le bassiste, etc. Alors tout ça, j'ai bien sûr pas la prétention. Donc c'est bien sûr eux qui ont fait ça. Donc si la chanson dans l'arrangement final, elle est quand même issue du travail de beaucoup de gens.
Cette chanson du rêve, elle parle de quoi exactement, si vous pouvez?
Alors, la chanson du rêve, globalement, je le disais tout à l'heure, c'est une femme que je connais depuis que j'ai votre âge, je pense. Et mais ça, il faut pas lui dire. J'ai toujours été un petit peu amoureux de cette femme, et puis de cette fille d'abord, et de cette femme ensuite. Et puis, il m'arrive parfois de la recroiser. Et puis, une fois que je l'ai recroisée, on avait bu un café et tout ça. Et puis, ça m'avait inspiré cette chanson du rêve, en fait. C'est simplement cette personne-là. Mais bon, elle le sait, mais il ne faut pas trop lui dire parce que ça la met mal à l'aise. Mais voilà, c'est ça.
Et la musique, c'est un écho à votre vie ?
Alors oui, bien sûr. Alors bien sûr, ça résonne en moi depuis que je suis gosse. Et puis c'est quelque chose de comment dire ça. C'est quelque chose qui est à la fois un moteur dans ma vie. Et puis ça résonne en tout temps. Oui.
Dans cet album, il y a la chanson Tout là-bas, tout là-haut, écrite pour un film. C'est une nouvelle expérience pour vous ?
Oui, absolument. Alors, c'était une expérience assez marrante parce que c'est la première fois que je devais, entre guillemets, écrire une chanson avec des contraintes, entre guillemets, donc un cadre bien précis. La chanson devait parler d'un sujet clair, devait être, orientée de manière assez précise, alors que toutes les autres chansons que j'ai créées, elles étaient totalement... je m'étais autorisé la totale liberté dans tout ce que j'écrivais. Et puis là, vraiment, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé ça, en fait, parce que ça m'a obligé à aller chercher d'autres choses en moi pour écrire cette chanson.
Et le duo avec Sophie Burande, pourquoi cette chanson ?
Alors cette chanson, là aussi, elle est un petit peu nostalgique de l'enfance. Moi, je suis un petit peu un nostalgique de l'enfance parce que j'ai eu une enfance tellement, tellement joyeuse et sympa que voilà, c'est une période de ma vie qui revient, qui résonne souvent en moi. Et puis Destin lié, ça parle justement de liens très forts qu'on peut créer quand on est enfant à l'école et qui, même si des fois on perd un peu de vue les gens qu'on a connus à l'école, on peut les recroiser 20 ans après et ce lien existe toujours. Et puis ces liens particuliers m'ont inspiré cette chanson. Et puis après, une fois que j'avais créé la chanson, c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte, enfin, que j'ai imaginé que cette chanson, je ne pouvais pas la chanter seule, en fait, puisqu'elle parle de liens entre des enfants, finalement. Et je me suis dit, c'est une chanson qui irait vraiment bien pour un duo. Et puis, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un duo avec Sophie, justement, du groupe Carousel. Et puis, je me suis dit, vu que je la connais depuis pas mal longtemps, je l'ai appelée. Et puis, je lui ai dit, voilà, j'ai une chanson. Je pense que c'est un duo et j'aimerais le faire avec toi. Puis, elle a écouté la chanson. Puis, elle m'a dit, elle est fantastique. C'est parti, on y va. Et puis, on s'est retrouvés en studio.
Et votre prochain concert, c'est où et quand ?
Alors, j'en ai pas mal de concerts un peu à gauche et à droite, mais le prochain, c'est un concert un peu particulier, c'est sur les pistes à Zinal. C'est une atmosphère toujours un peu spéciale, ça se passera le 30 mars, ce sera en plein après-midi sur les pistes à Zinal, un endroit qui s'appelle La Marmotte. Et je me réjouis déjà, ouais. Mais après, j'ai plein de concerts aussi, un peu à gauche, à droite, dans à peu près tous les cantons de Suisse romande. Mais le prochain, c'est lui.
Merci Joe Metro d'être une nouvelle voix venue parmi nous.
Merci encore. Maintenant sur Radio Châtelard, le journal du sport. En attendant, un extrait du dernier album de Joe Metro avec la chanson Du rêve. A bientôt Joe sur Radio Châtelard.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Je mains ton antre, ton bord de mer, tes mains ton ventre, ta crème solaire, ton grain de folie, ton Italie. Me sentir entier qu'en étant à moitié, mes caresses sous ton petit de caisse, ta tendresse, mes faiblesses, mon ivresse. Égaré sur tes fesses, c'est leur promesse, mon danger, mon été de Damoclès. Ça fait 10 mois, à la rue tout déchiré. Ça fait 10 mois, une revue trop bien cachée. Mais toi dis-moi, quand viendras-tu me chercher? Dis-moi, quand viendras-tu me chercher? Tu rêves, tu rêves, tu rêves, juste un jour de rêve. Tu rêves, tu rêves, tu rêves, donnez-moi du rêve. Ton a dans toi mon air, donnez à moi tes lèvres. Tu rêves, tu rêves, tu rêves, juste un jour de trêve. Tu rêves, tu rêves, tu rêves, donne-moi tes rêves. Ton autoroute, le bout des tunnels, mes craintes, mes doutes, à la poubelle. À tes côtés, cheveux au vent, en toi ma cote, à son firmament. Décapotable, cap tes pieds dans le sable, qu'on éradique toute vie de carmélite. Et ceci de suite, ensuite, 418, tout collé, mon été aux zénith. Ça fait 10 mois, à la rue tout déchiré. Ça fait 10 mois, une revue trop bien cachée. Mais toi dis-moi, quand viendras-tu me chercher? Dis-moi, viendras-tu me chercher? Tu rêves, tu rêves, tu rêves, juste un jour de rêve.
Tu rêves. Radio,
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 radio du Châtelard.
Bonjour à tous, bienvenue au Journal du Sport. Aujourd'hui au programme l'histoire du foot, puis dernier résultat ski. Enfin, nous terminerons par les résultats de Fribourg-Gotteron. C'est bien ça?
Oui, oui, absolument, Diane.
Alors Samuel, ce foot, racontez-nous.
Bonjour Diane, oui, alors l'histoire du foot commence à Cambridge en octobre 1848.
Vraiment? Et comment cela a-t-il débuté?
Eh bien, il a fallu quelques années avant que le premier vrai match n'ait lieu. C'est seulement en 1860 et c'était 16 contre 16. Le FC Sheffield rencontrait le FC Alham.
16 contre 16?
Et oui, c'est presque un siècle plus tard qu'a été créée la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il y a eu 79 participants, 32 équipes sont qualifiées et le tenant du titre est le Real Madrid.
Le Real Madrid?
Et c'est Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur avec 125 buts et le meilleur passeur avec 42 passes décisives.
Incroyable. Mais, et la Coupe du Monde dans tout ça, Samuel?
Alors la Coupe du Monde a été créée en 1928, elle a lieu tous les 4 ans. Il y a là aussi 32 équipes qualifiées.
Le meilleur buteur, Samuel?
Miroslav Klaus avec 16 buts. Il a aujourd'hui 40 ans et joué pour l'Allemagne. Il y a là aussi Lothar Matthäus qui a fait 25 matchs de Coupe du Monde.
Mais quels sont les plus titrés, Samuel?
Eh bien, Diane, il fallait s'y attendre. Ce sont les Brésiliens avec 5 victoires. Les tenants du titre sont les Français aujourd'hui.
Merci Samuel pour cet historique très intéressant. Nous allons maintenant parler ski. Bonjour Adeline.
Bonjour Diane.
Alors Adeline, ce ski?
Eh bien, que des problèmes.
Comment ça, des problèmes?
Du jamais vu, 4 Suissesses en lice ont eu des problèmes de chrono.
Ah oui?
Absolument, les chronos ne sont pas arrêtés. Du coup, le classement a été chamboulé.
Vraiment?
Oui, gros coup dur pour les Suissesses, à Crans-Montana en plus.
Racontez-nous, Adeline.
La première Suissesse à s'élancer, c'était Johanna Ellen. Et comme son chrono ne s'est pas arrêté, elle n'a pas su tout de suite son classement. Ensuite, Lara Goodberami a eu le même souci. Oui, Prisca Nufer, même problème. Et enfin, Jasmine Fleury a elle aussi été victime du chrono fou.
Mais c'est étrange cette histoire, les Suissesses maudites à Crans-Montana?
Pas complètement, car Corinne Souter emporte quand même la 3e place sur le podium.
Et les autres Suissesses alors?
Il y a encore Wendy Holdener qui remporte la 3e place du combiné de Crans-Montana. Et chez les hommes, il y a Beat Feuitz qui a remporté le globe de cristal en décembre devant Dominique Paris et Vincent Krischmeier.
De belles performances, donc merci Adeline.
Merci Jayan.
Maintenant nous terminons ce journal du sport avec Fribourg-Gotteron. Bonjour Fanny.
Bonjour Jayan.
Alors Fanny, quoi de neuf pour cette équipe?
On va commencer par un petit peu d'histoire, Jayan, donc plutôt du vieux. C'est en 1998 qu'Hubert Audria a créé le Dragon de Gotteron.
Mais qui est Hubert Audria?
C'est un ancien joueur du Fribourg-Gotteron. Aujourd'hui, il est devenu artiste peintre. D'ailleurs, c'est le seul citoyen fribourgeois autorisé à circuler sans casque à Fribourg.
Vraiment? On pourrait demander à la police ce qu'elle en pense, hein Fanny?
Oui, certes, mais ceci dit, revenons à notre dragon. Il a été créé en référence à une légende de la vallée du Gotteron.
Un dragon? Un animal fantastique?
Oui, d'ailleurs, quand Hubert Audria a présenté son idée, elle n'a pas tout de suite été bien acceptée. Le comité trouvait que cela donnait une connotation chinoise à un club qui n'a rien d'asiatique.
Pourtant, aujourd'hui, tout le monde s'y est fait.
Eh oui, Jayan, le dragon de Fribourg-Gotteron est devenu indissociable du club fribourgeois. D'ailleurs, cela a donné des idées à d'autres clubs, notamment celui de Berne qui a réclamé un ours à Hubert Audria.
Et les Bernois ont-ils eu leur ours?
Non, pas de chance pour eux. Hubert Audria n'a pas souhaité faire d'autres mascottes. Il est resté dans le giron fribourgeois uniquement.
Et maintenant, les résultats, Fanny. Ils en sont où, nos dragons?
Eh ben, ils sont malheureusement en play-out, mais ils ont quand même réussi à gagner le jeudi 14 mars, 7-3 contre Davos à Fribourg.
Et du coup, vont-ils encore jouer cette année?
Eh bien, au moment où je vous parle, ils vont encore jouer un match, en tout cas ce week-end contre Rapperswil. Mais quand vous l'écouterez, je ne sais pas.
Des remaniements de prévus pour cette équipe?
Eh bien, étant donné les résultats, il y en aura effectivement.
Merci Fanny, merci cher auditeur. Tout de suite de l'actualité sportive, nous recevrons Monsieur Le Sueur, prof de taekwondo sur Radio Châtelard.
Interview. Interview pour les stars.
Bonjour tout le monde, on est en direct du Châtelard, la radio des stars, avec Sébastien Le Sueur qui a 44 ans et est prof de taekwondo. On se retrouve tout de suite avec Jérôme qui va l'interviewer. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Gabriel, on est effectivement en direct du Châtelard avec Sébastien Le Sueur. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors, vous êtes prof de taekwondo. En quoi cela consiste?
Alors le taekwondo est un art martial qui vient de la Corée, qui a été créé en 1955. Cela consiste essentiellement en premier lieu comme une méthode de self-défense. Et puis c'est aussi un sport et puis un moyen aussi de développer la personnalité des individus et leur qualité sociale aussi.
Mais du coup, quand on fait du taekwondo, on n'attaque pas?
Alors le premier but, c'est de se défendre. Hein. Seulement si on a vraiment besoin, comme le dit la loi d'ailleurs. Et voilà, et après, il a été créé dans un but guerrier à l'origine, mais aujourd'hui, on est dans un contexte très différent où on essaye surtout, et notamment au niveau des jeunes, de développer aussi les qualités propres à l'individu, comme la confiance en soi, le respect des autres.
D'accord, et puis on va revenir aux origines. Quelle est l'histoire du taekwondo?
Alors le taekwondo a été créé, comme je l'ai dit, en 1955 par un général de l'armée coréenne. Et puis lui s'est inspiré en premier lieu du karaté, puisqu'il pratiquait le karaté. Et il a voulu créer un art martial propre à la Corée, puisque la Corée avait été envahie pendant de nombreuses années par le Japon. Donc il était un peu anti-Japon. Alors il a voulu créer un art martial propre à la Corée, et c'est de là qu'est né le taekwondo.
Merci. Et puis, y a-t-il plusieurs sortes de taekwondo? Pouvez-vous nous expliquer?
On a combien de temps? Alors, l'histoire est très compliquée. C'est lié aussi à l'histoire de la Corée, qui est divisée en Corée du Nord, Corée du Sud, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et le taekwondo a aussi été divisé en deux fédérations au niveau mondial. Donc, il y a la Fédération internationale de taekwondo, celle dont je fais partie, et parallèlement la Fédération mondiale de taekwondo qui a été créée un peu plus tard.
D'accord. Où et quand vous avez commencé le taekwondo?
Le taekwondo, j'ai commencé en France en 1990. Et d'accord. Avant ça, les arts martiaux, j'ai commencé en 1985.
D'accord. Vous enseignez le taekwondo depuis quand et où?
J'enseigne depuis 1994. J'ai commencé à enseigner en France, puis après j'ai enseigné une dizaine d'années au Canada, et puis depuis 2006 en Suisse.
Où ça?
Alors dans trois clubs qui se trouvent à Noréa, à Grangette et puis à Lucie.
D'accord. Puis vivez-vous du taekwondo?
Oui, maintenant je suis professionnel du taekwondo, donc j'ai à peu près j'ai trois clubs, donc avec une vingtaine de cours sur la semaine, environ entre 150 et 200 élèves. Et puis je suis aussi entraîneur et coach de l'équipe nationale suisse.
Et puis vous aimez être coach alors?
Oui, j'aime beaucoup. Et ça me permet de voyager aussi et de voir d'autres ouais. pays.
Alors vous êtes coach, mais vous n'êtes pas aussi peut-être arbitre?
Je suis aussi arbitre international, oui, c'est juste.
Du coup, vous arbitrez des grandes coupes?
Ça arrive parfois, mais bon, je dois aussi me partager entre mes différentes fonctions. Là, on ne peut pas tout faire non plus en même temps.
D'accord. Est-ce qu'on a le droit de se défendre, bien sûr, en cas d'urgence, avec les techniques du taekwondo?
Alors, bien sûr, après, il faut étudier la loi, ce qu'elle dit, mais pour être très sommaire, je dirais qu'on a le droit de se défendre en proportion à l'attaque qui est donnée, quoi. C'est-à-dire D'accord. que si quelqu'un veut juste vous pousser, vous n'avez pas le droit de riposter avec une attaque qui va envoyer cette personne à l'hôpital avec des blessures graves, par exemple.
D'accord. Puis, j'ai une petite anecdote. Quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas videur de boîte de nuit?
Alors j'ai fait ça, oui, dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant à l'école d'ingénieurs en France, et j'ai travaillé dans les boîtes de nuit à la sécurité pour gagner de l'argent, payer mon loyer, puis mes dépenses diverses.
Puis pouvez-vous nous raconter une petite anecdote à ce sujet?
Une anecdote...
Une histoire de pouce.
Non, une anecdote drôle, puisqu'on a un policier qui est présent aujourd'hui. Il y avait eu une altercation dans un endroit où je travaillais la sécurité, et puis... à un moment donné, la police a fini par arriver un petit moment après qu'on ait signalé. Et j'ai senti une main posée sur mon épaule derrière. C'était un policier qui est arrivé pour rentrer sur la scène au milieu. Mais sentant la main sur mon épaule, j'étais stressé. Et puis je l'ai attrapé par la main, je lui ai fait une clé et puis je l'ai mis au sol. Il s'est retrouvé, il rentre à terre. Et puis là, j'étais un petit peu gêné. J'ai dit « Oups !»
Et il ne vous a pas trop crié dessus?
Non. Après, on a discuté longuement. C'était juste, voilà. On en a ri après, quoi.
D'accord. On remercie Sébastien Assieur. Et merci. On va se retrouver tout de suite avec Gabriel, notre animateur, qui va vous lancer le prochain interview.
Merci Sébastien, on a fini avec vous. On se retrouve tout de suite avec un policier qui va peut-être nous donner son avis sur votre anecdote. Après une chanson de Joe Metro, Destin lié.
Merci Sébastien, au revoir.
Au revoir.
Rêvant de se prendre la main, amoureux fous, alliés en alternant amour et amitié. Nos destins à jamais resteront liés. L'eau sous la passerelle peut bien couler. Mon amour, moi, j'ai pas fini t'aimer. Cabane, toujours baiser volé. Hiver comme été pour mon goûter. Ta peau sucrée. Cette partie de cache-cache, tu peux bien barrer pour moi. Y'a rien de mon âme que tu ne saches. Je veux croire au jour où on se retrouvera. Comme des enfants dans la cour de récré, rêvant de se prendre la main, amoureux fous, alliés en alternant amour et amitié. Nos destins à jamais resteront liés. L'eau sous la passerelle peut bien couler. Mon amour, moi, j'ai pas fini de t'aimer. Cabane, toujours baiser volé. Hiver comme été pour mon goûter. Ta peau sucrée. Tu seras toujours mon ange gardien. Surtout mon ange aux yeux si doux. Maintenant que ton amour vole au loin, pour moi rien ne change. Je pense à nous. Nous comme deux enfants dans la cour de récré, rêvant de se prendre la main, amoureux fous, alliés en alternant amour et amitié. Nos deux destins à jamais resteront liés. L'eau sous la passerelle peut bien couler. Mon amour.
Interview pour les stars.
Aujourd'hui sur Radio Châtelard, Romain, Mathis et moi allons interviewer André Progin. Bonjour à tous.
Bonjour.
André Progin, merci à vous d'être venu.
Avec plaisir.
André, vous êtes gendarme et chef de la région sud, c'est-à-dire des gendarmes qui travaillent dans le district de la Gruyère-Glane-Veuvez. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre métier?
Oui, effectivement, la police cantonale est organisée en trois régions. Et comme vous l'avez relevé, je suis le chef pour la région sud. Avec des policiers présents dans les trois districts, et on a deux services finalement de police, ou deux types d'actions de police. Une, c'est la police de proximité, et puis l'autre service, ce sont les policiers qui interviennent pour le 117, ce qu'on appelle police secours.
Est-ce que policier, c'était votre rêve depuis tout petit?
Alors quelque part oui, mon papa était déjà policier, donc je baignais dans le métier depuis que je suis tout petit. Et puis effectivement, j'ai fait une première formation de monteur électricien, puisqu'on ne peut pas rentrer dans la police avec un apprentissage après l'école. Donc j'ai fait une formation d'électricien, et puis suite à cette formation, je me suis inscrit à l'école de police pendant que j'étais à l'armée. Et puis finalement, j'ai été sélectionné, et puis... engagé, après avoir réussi mes examens.
Donc vous avez réalisé votre rêve?
Oui, bien sûr.
On sait que pour être policier, il faut d'abord
d'abord avoir un autre métier. Pourriez-vous nous dire par quoi vous avez commencé ?
Alors, comme j'ai dit, donc effectivement, j'ai fait une formation de monteur électricien aux entreprises électriques fribourgeoises, qui n'existent plus maintenant, puisque c'est devenu le groupé. C'était 4 ans d'apprentissage, et j'ai suivi cette formation à Romont.
Comment s'est passé votre premier jour à la police ?
Alors ça dépend, il y a eu les premiers jours à la police, à l'école de police, où on s'est retrouvé tous les futurs nouveaux agents de policiers. Et puis autrement, le premier jour à la police, j'ai commencé au tout début au poste de police à Fribourg. C'était réorganisé depuis la police, mais il y avait un poste pour la ville de Fribourg. Et je me souviens, je suis sorti en patrouille avec un collègue expérimenté qui encadre les jeunes policiers. Et puis en sortant du parking, j'avais une grosse Volvo automatique. Et en sortant du parking, je me suis trompé dans les pédales. Ça a bloqué le frein. Et mon collègue, il est parti contre la fenêtre. J'ai dit, c'était le premier jour, j'ai dit, ça va jamais aller. Il va plus vouloir travailler avec moi. Donc c'était parti un peu de manière particulière. Mais après, ça s'est bien arrangé, on a bien discuté. Et puis c'était un super collègue, un super formateur.
Quoi ? Que pense votre famille de votre métier ?
Alors, ma maman, elle était épouse d'un policier, donc c'était pas un problème. Je pense qu'elle était assez fière que je fasse ce métier. Et puis ma famille directe, donc mon épouse, je l'ai rencontrée suite à un déplacement professionnel dans le district de la Veuvez, donc elle savait que j'étais policier, et puis voilà, elle a accepté de m'épouser, donc je pense qu'elle a aussi accepté le métier que je faisais.
Est-ce que tous les gendarmes travaillent 24 heures sur 24 ?
Oui, travaille 24 heures sur 24, il y a un horaire qui est organisé pour couvrir 24 heures sur 24, mais on se repose quand même, parce que sinon ça serait un petit peu compliqué.
Comment est organisé le travail ?
Alors, ça dépend. Pour les agents de police qui travaillent en service police-secours, ils travaillent sur 6 jours, finalement, avec un service de nuit dans la période, et puis 2 jours de repos, puis ensuite on recommence le cycle. Et puis le personnel en police de proximité est plutôt actif sur un horaire administratif. On doit plus, avec ces policiers-là, assurer une présence visible auprès de la population. Et puis, une fois par semaine, ils font un service un peu plus tard en soirée, notamment quand il y a des manifestations, des fêtes dans les différentes régions où ils travaillent.
Lorsqu'on fait le 117, qui répond ?
Alors, c'est une centrale qui est à Grange-Paco, avec aussi des policiers qui travaillent dans ce service-là et puis qui prennent les premiers renseignements pour pouvoir après faire intervenir les patrouilles ou proposer peut-être des solutions sans que la police intervienne tout de suite.
Avez-vous déjà tiré sur quelqu'un ?
Alors, j'ai eu la chance de jamais avoir besoin de tirer sur quelqu'un. J'ai tiré en l'air pour faire des coups de semonce lorsqu'on poursuivait une fois des cambrioleurs en fuite, mais autrement, j'ai eu la chance effectivement de jamais avoir besoin de tirer sur quelqu'un.
Est-ce que ça vous fait peur d'avoir à tirer sur quelqu'un ?
Alors, c'est pas un problème de peur, on est formé pour ça, pour pouvoir devoir agir en cas de nécessité, et puis ça fait partie du travail dans des circonstances extrêmes, heureusement.
Depuis votre début de carrière, connaissez-vous quelqu'un dans la police qui se serait fait tuer ?
Oui, bien sûr. J'ai un collègue qui s'était fait percuter par un véhicule avec un conducteur qui avait trop bu au volant.
C'est un choc pour vous ?
Bien sûr, c'est toujours des faits très marquants puisque c'était dans le cadre du travail. Donc mon collègue faisait son travail correctement et puis il perd la vie sur le moment, donc c'est des situations et des moments très difficiles.
Pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos missions ?
Alors, c'est la mission principale, c'est d'assurer la sécurité et l'ordre public pour les citoyens du canton, et puis aussi de dénoncer les infractions lorsqu'elles sont constatées.
Est-ce que c'est stressant ?
C'est pas forcément stressant, non, mais je pense que c'est un métier passionnant puisque chaque jour on est différent. On ne peut pas programmer à l'avance ce qui va se passer, donc c'est plus passionnant que stressant.
Vous avez souvent des affaires criminelles?
Alors ça arrive, ça dépend des périodes, mais oui, on en a, on va dire quand même tout le temps.
Et lorsqu'il y a un crime, comment ça se passe?
Alors, ben en général on est appelé, ou si on constate directement dans le cadre du travail en patrouille ou autre, mais la plupart du temps on est appelé, on intervient sur place. Les premiers policiers qui arrivent sur la scène de crime finalement font une première analyse, et puis ensuite on met en place et on fait intervenir différents moyens pour essayer d'établir clairement ce qui s'est passé, et puis le but final est de, s'il y a un auteur à arrêter, c'est de pouvoir le faire.
Qui arrive sur la scène de crime?
En premier?
Oui.
Alors en premier, c'est les gendarmes, toujours. Une patrouille de police ou deux, selon la situation.
Et après, comment se déroule l'enquête?
Alors après, on fige la situation, la scène de crime, finalement. Puis on fait intervenir, comme on voit dans les séries télé ou autres, des experts qui viennent relever les traces, prendre des photos, essayer d'établir les faits, établir ce qui s'est passé, récolter toutes les preuves possibles. Et puis en parallèle, il y a des enquêteurs de la police de sûreté qui viennent. Et puis là, on va essayer d'obtenir des renseignements auprès des voisins notamment. Et puis par rapport peut-être à des images vidéo qui peuvent être récupérées et autres. Donc après, il y a plein de possibilités et d'éléments qui peuvent être exploités.
Est-ce que vous avez vu souvent des morts?
Oui, j'en vois assez souvent.
Quelles sont les raisons principales pour les meurtres? Pour un meurtre?
Alors, on dit souvent, hein, c'est si on prend les motivations fondamentales, c'est beaucoup l'argent, finalement, la jalousie aussi, qui apparaît régulièrement. Après, ça dépend des situations, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est plutôt dans ce domaine.
Avez-vous déjà participé à une course-poursuite?
Oui.
Comment assurez-vous la sécurité des autres automobilistes?
Alors, c'est toujours le même principe, on doit respecter la proportionnalité, c'est pas parce qu'on veut arrêter quelqu'un qui a commis une infraction ou un délit qu'on peut mettre en danger les autres automobilistes si c'est une course-poursuite en voiture. Et c'est aussi pour ça qu'on a un feu bleu et une sirène, pour avertir les gens qu'on est en intervention et puis qu'on essaye d'avoir la priorité. Mais on doit être toujours très très attentif pour éviter de causer des problèmes aux alentours et sur la route. Et on a aussi des formations dans ce domaine-là au niveau de la conduite pour être au mieux quand ça se passe.
Qu'est-ce qui occupe le plus la police fribourgeoise? Affaires criminelles, délits routiers, drogue?
Alors un mélange de tout, hein, finalement, parce qu'on touche à tous les domaines. La route, c'est important, puisqu'il y a toujours plus de voitures en circulation, donc ça nous occupe aussi. Les crimes, effectivement, on n'est pas dans un pays, un canton où, heureusement, on vit tous les jours avec des affaires de crimes. Et puis après, les infractions dans beaucoup de domaines, des délits dans beaucoup de domaines. Aussi, les violences domestiques nous occupent beaucoup.
Est-ce qu'il y a du trafic de drogue à Fribourg?
Il y en a dans le canton, à Fribourg et dans tous les districts, finalement, dans toutes les régions, ça existe.
Savez-vous d'où vient la drogue?
Alors, des pays producteurs, après c'est des réseaux qui se mettent en place. Effectivement, ça dépend des types de drogues, hein, il y en a beaucoup. Et puis si on parle de la plus connue de base, la marijuana ou autre, elle peut être cultivée chez nous. Donc voilà, certains la cultivent et ensuite la mettent en vente.
En tout cas, vous êtes proche de la population. Merci pour votre travail.
Merci.
Merci d'être venu nous parler de votre métier.
Avec plaisir, merci.
Merci à tous, c'était Antoine, Romain et Mathis sur Radio Châtelard.
Interview pour les stars.
Hallo zusammen.
Hallo.
Cynthia.
Ja.
Was machen wir heute zusammen?
Heute interviewen wir Heidi Rock, eine Nägelstylistin, die Meisterin ist.
Ah ja, ich kenne sie. Heidi kommt aus Obwald, aber jetzt wohnt sie in Le Châtelard. Sie hat 4 Kinder und sie macht auch Nägel. Hallo Heidi.
Hallo zusammen.
Wie geht es Ihnen?
Danke, gut.
Seit wann machen Sie diesen Beruf?
Den Beruf übe ich jetzt seit 12 Jahren professionell aus. Was mögen Sie in Ihrem Beruf?
Die Vielfältigkeit. Es gibt ständig neue Produkte, neue Ideen. Es ist sehr, sehr vielseitig und das gefällt mir.
Wie haben Sie es angefangen?
Ich habe vor circa 13 Jahren angefangen. Da habe ich mir meine Nägel nur selber gemacht. Und so ein Jahr später habe ich dann eine professionelle Ausbildung gemacht, um auch die Kunden zu betreuen.
Vorher haben Sie einen anderen Beruf gemacht?
Ja, ich habe vorher Bäcker-Konditor gelernt. Dann habe ich noch circa 3 Jahre auf dem Beruf weitergearbeitet. Und dann später habe ich Lastwagenchauffeur gemacht. Ich habe einen Bus, den Busausweis gemacht und ich habe so circa 5-6 Jahre auf der Linie Romont-Bull bin ich im Linienverkehr gefahren.
Warum haben Sie den Beruf gewechselt?
Das ist auch irgendwie gekommen mit den Kindern zusätzlich, dass ich zu Hause arbeiten kann. Ich bin selbstständig, kann meinen Tagesablauf selber bestimmen und das gefällt mir so.
Ist es schwer, mit langen Nägeln zu leben?
Die Frage höre ich sehr oft. Es ist Gewöhnungssache. Ich habe auch kurz mit kurzen Nägeln angefangen, dann wurden sie immer ein bisschen länger und so ist jetzt es bis jetzt geblieben.
Sind Sie nicht ein bisschen müde von Ihren 4 Kindern?
Gute Frage, nein. Ich wollte immer viele Kinder haben, es sind 4 geworden. Und nein, es ist okay.
Was denkt denn Ihr Mann von Ihrer Karriere?
Ich denke, ich kann behaupten, dass mein Mann stolz auf mich ist, die ganze Karriere, die ich bis jetzt gemacht habe, und er steht hinter mir.
Hat er nicht ein bisschen Angst vor Ihren langen Nägeln?
Nein, er hat sich mittlerweile auch dran gewöhnt, von kurz bis auf lang. Ich denke, er kommt gut damit klar.
Und Sie machen natürliche Produkte?
Ja, ich mache auch natürliche Produkte nebenbei, ja.
Wo verkaufen Sie Ihre Produkte?
Ich verkaufe meine Produkte bei mir im Nagelstudio in Schattlar.
Jetzt sprechen wir über Belohnungen.
Wo haben Sie die Wettbewerbe gemacht?
Ich habe mehrere Wettbewerbe gemacht. Ich habe Wettbewerbe in der Schweiz, in Spanien und in Italien gemacht.
Haben Sie schon etwas gewonnen und wenn ja, was denn?
Ich habe mehrere Preise gewonnen, ja. Ich habe, ich weiß nicht genau, sind irgendwie so 11 Medaillen an der Zahl, irgendwie sowas. Ja.
Haben Sie zukünftige Projekte oder einen Nachbarwettbewerb?
Im Moment die Wettbewerbe habe ich jetzt ein bisschen sein lassen, weil ich habe jetzt ein anderes Projekt in Aussicht. Ich habe jetzt vor 2 Wochen war ich Jury in Zürich für die Wettbewerbe, für den Schweizer Wettbewerb und ich denke, ich werde da jetzt ein bisschen so weiterfahren.
Was ist euer größter Sieg?
Der größte Sieg, das sind eigentlich 2, wenn ich das so sagen darf. Ich war vor 2 Jahren Schweizer Meisterin. Dann habe ich in 2014 bin ich die erste Schweizerin, die eine Goldmedaille von Rom mit nach Hause nehmen durfte.
So, vielen Dank für die Antwort und bis bald.
Vielen Dank.
C'était Cynthia et Stéphanie sur Radio Box.
Juste après, une chanson de Joe Metro, Tout là-bas, tout là-haut.
Regardez les trains qui traînent tous les jours de la semaine. Le spin dans les veines de leurs passagers qui ne drainent rien d'autre que leurs problèmes. Moi je rêve d'évasion, clochou et baluchon, corne en l'air et regard fier. Quitter la terre, le plancher de mes congénères, et fini le brouillard tout là-haut, rumine et peinard tout là-haut. L'air est pur et l'herbe est grasse. Tout là-bas, tout là-haut, vivement qu'on s'y casse. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-haut. 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 Assoiffé de liberté, départ tout Paris pour l'Alpé. Puisqu'on nous dit folle, brouté même les tournesols. Moi et mes copines noires et blanches, tous les jours dimanche à s'en faire péter la panse. Mais on s'en fout, c'est les vacances. Fini le brouillard tout là-haut, rumine et peinard tout là-haut. L'air est pur et l'herbe est grasse. Tout là-bas, tout là-haut, vivement qu'on s'y casse. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-haut. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-haut. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-haut. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-haut.
Radio, radio,
radio,
radio,
radio,
radio du Châtelard.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chronique des animaux marins.
Bonjour Rémi.
Bonjour Priscille.
Pourquoi parlons-nous aujourd'hui des animaux marins ?
Eh bien parce qu'ils sont en voie de disparition, comme les requins blancs par exemple.
Pour quelles raisons sont-ils en voie de disparition ?
On parle de la pollution des océans.
Oui, les déchets, les plateformes pétrolières et les bateaux.
Oui Priscille, on parle également des risques de la pêche intensive. Venir avec entre autres la mode des sushis.
Oui, mais on dit qu'à cause de l'homme, 49% des espèces marines ont disparu entre 1970 et 2012.
À ce rythme-là, en 2050, il n'y aura plus de poissons à pêcher. Et j'y pense, c'est quoi la pêche intensive ?
La pêche intensive, ça veut dire que les hommes tuent beaucoup plus d'animaux marins qu'il est nécessaire pour se nourrir.
Hélas oui, on tue beaucoup plus d'animaux que ce dont on a besoin.
Parfois, les animaux pêchés ne sont pas du tout consommés. C'est le cas des dauphins pris par erreur dans les filets de pêche.
Il y a aussi les animaux qui sont massacrés presque pour rien. Par exemple, les requins. On découpe l'aileron et le requin encore vivant est rejeté à la mer.
Oh Amy, c'est vraiment affreux, mais pourquoi ça ?
Parce que les ailerons sont utilisés en médecine traditionnelle et qu'ils n'ont pas besoin du reste du requin.
C'est épouvantable, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je ne sais pas trop, Priscille, mais nous allons laisser la parole à Clémence et Nathan. Je crois qu'ils ont une invitée qui pourrait nous en dire un peu plus.
Interview pour les stars.
Bonjour chers auditeurs, je suis Clémence et avec Nathan, nous vous proposons un interview avec Mélissa Jacquet, qui est une étudiante en biologie marine et qui est allée avec l'association Maldives Whale Shark Research Program pour essayer d'aider la faune marine. Bonjour Mélissa Jacquet.
Bonjour.
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 Et en quoi consiste votre métier de biologiste ?
Alors, le métier de biologiste, c'est beaucoup d'heures sur le terrain ou dans les laboratoires. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'heures qu'on passe à faire des maths, donc surtout des statistiques, où on va faire plein d'analyses statistiques très complexes pour étudier les données qu'on a récoltées. Et puis ensuite, il y a aussi beaucoup de temps qui est passé à écrire, pour écrire des articles ou écrire des demandes, des demandes d'argent pour des projets de recherche.
Et pourquoi vous avez choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier par passion et par rêve, parce que depuis que j'ai 8 ans et que j'ai plongé pour la première fois dans un océan, j'ai été passionnée et j'ai voulu aider ou faire quelque chose pour pouvoir protéger les océans en voyant que ça n'allait pas très bien.
Mais qu'est-ce que vous a passionné chez ces animaux marins ?
Moi, ce qui me passionne spécifiquement, c'est les requins, et puis ce que j'aime vraiment, c'est leur calme. Et quand on est en présence d'eux, en tout cas moi, je me sens hyper bien et ils apportent une sérénité et c'est ça qui m'a passionnée.
Mais comment vous faites pour aider ces animaux ?
Alors là, je suis partie avec l'association que vous avez dit avant. Et puis on récolte en fait beaucoup de données. Donc on devait aller prendre en photo les requins ou prendre beaucoup d'informations sur l'eau, sur les courants marins et tout ça pour essayer de comprendre déjà ces animaux. Et puis en les comprenant, on espère pouvoir mieux les protéger.
Justement, vous êtes allé aux Maldives pour les aider, comme vous avez dit, mais vous êtes allé quand et combien de temps ?
Alors, je suis allée il y a 2 ans, pendant 1 mois et demi. Et je vous raconte ce que j'ai fait ?
Oui, volontiers.
Une journée, ça consistait à se lever le matin vers 7h. On partait sur le bateau à 7h30. Donc, depuis 7h30 le matin jusqu'à environ 17h, on était debout au soleil sur un bateau et on recherchait au loin une tache dans l'océan. Et puis, cette tache, ça devait être le requin baleine. Et du coup, dès qu'on voyait un requin baleine, on devait sauter à l'eau, enfin, on devait un peu se rapprocher du requin, sauter à l'eau. Une fois qu'on saute à l'eau, on doit essayer de retenir le plus possible d'informations dans notre tête. Donc il y a par exemple le courant dans lequel le requin il est en train de nager, le sens dans lequel il nage. Ensuite on doit récolter des photos. Donc là il faut tout faire en apnée parce qu'on n'a pas le temps de mettre des bonbonnes. Donc on doit prendre des photos sur chaque côté du requin, le dessous du requin pour le sexe. La vue de derrière, souvent on essaie de prendre une vidéo pour comprendre comment il nage. Et une photo du dessus. Ensuite, on doit compter le nombre de personnes qu'il y a autour. On doit regarder s'ils s'approchent trop près du requin, s'il y a eu quelqu'un qui aurait essayé de le toucher ou comme ça, puis on essaye d'analyser le comportement du requin, donc s'il est plutôt en train de fuir, s'il sera plutôt en train d'essayer de jouer avec nous, ou s'il est plutôt en train de se nourrir, s'il sera plutôt en train de se réchauffer. Ensuite, une fois qu'on remonte sur le bateau, on doit compter tous les bateaux qu'il y a autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de touristes, et on doit essayer de compter tous les gens qu'il y a dans l'eau, ce qui était des fois pas très facile, vu qu'il y a plein de gens qui vont dans l'eau, ressortent de l'eau. Et on doit prendre des informations comme la température, le vent, la vitesse du vent, le courant marin, la visibilité et aussi le plancton.
Et quel est le but de cette association ?
Le but de cette association, c'est de comprendre... Le premier but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les requins-baleines sont présents toute l'année aux Maldives, parce que c'est le seul endroit sur la Terre où on peut les voir toute l'année et il n'y a pas de saison. On essaye aussi de comprendre mieux leur reproduction, leur manière de vivre, comment ils se nourrissent. Et on essaye de comprendre comment les sauver. Et puis aussi de voir si l'humain a un impact sur eux.
Et du coup, vous alliez souvent nager très près des requins ?
Oui, on allait souvent nager très près. Le seul moment où on avait le droit d'enfreindre la règle qui est de ne pas les approcher à plus de 3 mètres, c'était quand il n'y avait personne autour de nous et qu'on allait les mesurer avec une chevillère.
Et quand vous alliez près des requins, est-ce que c'était terrifiant ?
Alors non, c'était pas terrifiant parce que le requin baleine, c'est un requin qui se nourrit uniquement de plancton ou de petits crustacés ou d'algues. Donc théoriquement, ne nous fera pas de mal. En tout cas, il n'est pas intéressé par nous. Après, il peut toujours nous faire un petit coup de queue ou comme ça si on est trop proche. Mais non, en tout cas, j'en avais pas peur.
Et qu'est-ce qui peut causer des problèmes aux créatures marines ?
Le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la destruction des habitats. Donc, par exemple, avec la surpêche ou lorsqu'on construit des nouveaux hôtels et qu'on casse les coraux. Ou alors avec tout le plastique qu'il y a dans l'océan et puis la surpêche.
Et quel est l'impact du réchauffement climatique ?
Alors, l'impact du réchauffement climatique sur les animaux marins, c'est que déjà on les dérange dans le sens qu'ils doivent se déplacer et aller dans des eaux plus froides. Et souvent c'est des espèces qui naissent sans sexe ou alors avec un sexe mais qui, selon la température de l'eau, vont changer de sexe. Donc si par exemple à partir de 28 degrés ce sera des femelles, tandis qu'en dessous de 28 degrés c'est un mâle. Si les eaux deviennent plus chaudes, ben, il y aura beaucoup plus de femelles et puis la population n'est pas viable s'il y a trop de femelles.
Et comment pourrions-nous empêcher le réchauffement climatique d'avancer autant rapidement ?
En s'impliquant, en apprenant, en s'informant, en essayant de chacun faire un petit peu ce qu'on peut. Par exemple, je pense que en tant que Suisse où on ne vit pas proche d'un océan, le plus simple c'est le plastique. C'est la pollution, donc par exemple éteindre la lumière quand on sort de sa chambre, essayer de consommer un peu moins de plastique, de manger local, de manger moins ou pas de poisson, ou des choses comme ça.
Ok, alors merci beaucoup d'être venu vu que j'ai plus de questions.
Merci.
Et vu que nous venons de parler du réchauffement climatique, alors je vous propose, chers auditeurs, d'accueillir Aïcha et Émilie qui vont vous parler de l'actualité climatique du moment. C'était Nathan et Clémence sur Radio Le Châtelard. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et au revoir.
Au revoir, au revoir. Merci.
Radio, radio,
radio,
radio,
radio,
radio du Châtelard.
Bonjour Émilie, comment allez-vous ?
Bonjour Aïcha, très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Nous allons parler du climat, ou plutôt des changements climatiques.
En effet Aïcha, la mobilisation pour le réchauffement climatique a pris de l'ampleur ces derniers mois. À l'appel de Greta Thunberg, les étudiants du monde entier ont répondu présent.
Eh oui, Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui a découvert le changement climatique à l'école à l'âge de 8 ans.
Mais quel âge a-t-elle aujourd'hui ?
16 ans seulement.
C'est incroyable ! Elle s'est inspirée d'un mouvement initié par les étudiants de Parkland aux États-Unis.
Oui, Émilie, et grâce à ce mouvement, elle a décidé de mettre en place une grève de l'école pour les étudiants du monde entier pour alerter sur le sort de la planète.
Absolument, Aïcha. D'ailleurs, au début, ses enseignants n'avaient pas compris la raison de cette grève.
Oui, mais elle a persévéré. Et pour que tout le monde comprenne bien son engagement, en décembre 2018, elle est allée faire un discours à la COP24.
Un discours très puissant d'ailleurs, où elle interpelle les politiques et les adultes du monde entier. Je cite, « Vous dites que vous aimez vos enfants, mais vous êtes en train de détruire leur futur devant leurs yeux. »
En effet, c'est puissant, et elle a appelé les étudiants du monde entier à la grève de l'école ce jour-là, mettant adultes et politiques devant leur négligence vis-à-vis des générations à venir.
Et les étudiants du monde entier se sont mobilisés suite à cela ?
Oui, Émilie, partout dans le monde.
Et même en Suisse ?
Absolument, même à Fribourg, plus de 1000 étudiants ont défilé pour le climat le 18 janvier 2019.
Et enfin, Greta Thunberg s'est rendue au Forum économique de Davos, en train. Plus de 20 heures de train alors que les politiques se sont déplacés en jet privé. Plus de 1500 vols pour venir débattre du changement climatique.
Et cela a fait bondir Greta Thunberg, évidemment. Lors de son discours à Forum économique mondial, elle a dit « Il est insensé que des gens soient rassemblés ici pour parler du climat et qu'ils viennent ici en jet privé. »
Elle peut être fière d'elle, cette jeune Suédoise.
Oui, car elle a mobilisé les étudiants du monde entier.
Absolument, Aïcha. D'ailleurs, vendredi 15 mars, de nouveau, les étudiants se sont mobilisés pour le climat et diverses actions ont été mises en place.
Tout à fait, Émilie. Et même dans le canton de Fribourg, la mobilisation a de nouveau été au rendez-vous.
Et vous, Aïcha, quel est votre avis ?
Moi, je pense que c'est très bien qu'elle a réagi et qu'elle a dit tout ce qu'elle a dit. Et vous, Émilie ?
Moi, je suis heureuse qu'elle ait fait ça. Elle a réveillé la jeunesse mondiale et les choses vont peut-être changer.
Merci, Émilie.
Merci, Aïcha.
Dans quelques instants, une chanson de Joe Metro pour terminer en beauté, Courant de l'air.
Radio, radio,
radio,
radio,
radio,
radio du Châtelard.
Merci d'avoir écouté notre émission. Nous remercions également les personnes interviewées telles que Joe Metro, Sébastien Le Sieur, André Progin, Eddie Rock et Mélissa Jacquet.
Nous tenons aussi à remercier notre maîtresse de nous avoir inscrites à ce projet.
Et passez tous une bonne et belle journée.
Tout, tout, elle est tout et me tue. J'en suis fou, que veux-tu, je suis foutu. Et de son plan B, C ou Q. À part le A. Pour moi rien ne me va, toujours surbooké dans le jus. Pas à pas, encore s'éloigner de moi. Elle m'échappe déjà. Amoureux d'un courant d'air, ne plus savoir quoi faire pour essayer de lui plaire. Amoureux d'un courant d'air, me taire et me taire pour oser rêver de sa chair encore. De sa chair encore. Rêver de sa chair encore. Me confier sans armure quelques-unes de ses larmes. Dans un paquet cadeau, papier brillant et ficelle. Moi pour être bien sûr qu'elle se garde. Les ai planqués illico tout au fond de mon congèle. Moi je voudrais pour cent ans l'aimer de temps en temps. Lui manquer comme avant. Avoir la vie devant. Son ventre et tout son temps lui manquaient vraiment. Amoureux d'un courant d'air, ne plus savoir quoi faire pour essayer de lui plaire. Amoureux d'un courant d'air, me taire et me taire pour oser rêver de sa chair encore. Rêver de sa chair encore. Rêver de sa chair encore, rêver de sa chair, rêver de sa chair encore, rêver de sa chair, rêver de sa chair encore. M'entend dire dur que l'amour ne dure. À ses histoires, dans ses yeux, comment y croire? Aussitôt laissé seul, rien de tel. Dans ta gueule, qu'un bon retour de manivelle. M'habituer comme je peux à vivre loin du feu. Sortir au mieux du jeu. Amoureux d'un courant d'air.
ne plus savoir quoi faire pour essayer de lui plaire. Amoureux d'un courant d'air, me taire et me taire pour.